pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Les histoires que vous allez entendre aujourd'hui ont une histoire particulière. Ce sont trois récits d'éblouissement, de sidération, d'émerveillement face à la beauté d'un paysage, d'un tableau, d'une personne. Comment une émotion esthétique nous coupe le souffle, nous fait palpiter, vibrer, nous transporte ou nous transforme, ou pas. Une thématique tout en subtilité, en sensibilité, qui ne peut être qu'un choix d'Élise Andrieux. Ceux qui écoutent Les Pieds sur Terre et LSD, la série documentaire sur France Culture, l'auront tout de suite deviné. Sauf que voilà, ces trois récits ont été enregistrés sur un Agra, un de ces enregistreurs mythiques que nous utilisons à Radio France, qui a été volé à la dite Élise Andrieux, ou en tout cas qui a disparu le 15 mai dans le train 891-011 au départ de la gare de Lyon à 16h22 en direction de La Roche-Migène. Évidemment, en empruntant ou dérobant l'appareil, l'auteur du larcin ou de l'emprunt les a gardés avec lui, les trois éblouissements, les sons qui allaient avec. Pour la compréhension de l'histoire, il faut savoir qu'Élise Andrieux a une petite fille de 4 mois qu'elle allait tout en enregistrant et que du coup le Nagra se trouvait dans la poussette, à côté des courses, des couches, du sac à dos, le tout dans un train bondé sous un soleil écrasant au milieu d'une cohue qu'on peut imaginer. Bien sûr, ça n'est pas la fin du monde, la guerre en Afghanistan, ni l'élection de Macron. Mais vous avez été quand même des centaines et des centaines à vous manifester sur les réseaux sociaux lorsque Céline Autain, notre stagiaire, a eu la bonne idée de faire appel aux auditeurs pour retrouver le dit Nagra avec le mot-clé « Rendez le Nagra ». Certains en ont profité pour nous dire le fond de leur pensée d'ailleurs. Allez demander à ceux que vous défendez tout le temps, a écrit un tweetos. Mr. Brighton a ironisé « Punaise ». Perdre un Nagra, c'est l'équipe des pieds nickelés que vous devriez prendre comme titre d'émission. Et puis, il y a eu des tas d'idées, de suggestions utiles et sympas, et même les confrères de Boxon nous ont proposé un brin perfide. Si vous manquez de matos à Radio France, on peut vous dépanner. La SNCF en personne nous a contactés via Twitter pour nous indiquer la marche à suivre. Et puis, au bout de quelques jours, au terme d'une enquête et d'un raid qui a réuni plusieurs équipes de choc, lesté de sa housse Radio France et de son beau casque, voilà que notre Nagra Ares bébé est apparu en vente sur eBay, disponible dans une commune non loin de Migène, la gare terminus du train. L'opération commando de sauvetage qui s'en est suivie a nécessité le concours des forces spéciales les plus performantes, de la gendarmerie de Joigny et des personnels ultra entraînés de la sécurité de Radio France au plus haut niveau. Harry de la Microtech a livré des informations qui ont été décisives au dernier moment. À la fin, l'appareil a été retrouvé en bonne santé, sans graves séquelles. Il a été confié en maintenance quelques jours, mais nous ne craignons plus pour ses jours ni pour sa sécurité. La carte flash détenant les précieuses informations a été restituée. Élise Andrieux en était émue aux larmes, éblouie. Je vous avais promis un petit récit, c'est fait. Ce sont donc trois éblouissements aujourd'hui, plus celui-là, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je suis d'origine russe. J'habite en France depuis 5 ans et maintenant je suis étudiante à Paris en histoire de l'art, en master. C'était il y a 3-4 ans, il m'est arrivé un jour d'être submergée par la beauté. C'était un matin, j'étais en cours. C'était un cours de grec ancien. On n'était même pas une dizaine d'étudiants, c'était tôt le matin, on était arrivé comme d'habitude, quelqu'un en avance, quelqu'un en retard, le professeur est arrivé juste à l'heure, on a commencé le cours comme d'habitude, on traduisait des phrases, elle écrivait sur le tableau, on écrivait dans nos cahiers, etc. Et je regardais mon professeur, qui d'habitude est quelqu'un de très sérieux, qui ne sourit pas beaucoup. D'un coup, j'ai été surprise quand elle a souri, comme un enfant. Elle a souri, vraiment, un grand sourire. Surtout les yeux brillaient, et dans les yeux, on voyait la vraie joie. Et moi, j'étais submergée par la beauté de ce sourire. Juste un sourire, mais justement, ce qui était étonnant dans ce sourire, c'est que c'était un sourire d'enfant. Ça m'a paru très très beau. J'ai senti que quelque chose a bougé en moi quand la souris, nos regards se sont rencontrés. C'était juste un instant, mais c'était vraiment très très beau. Et c'est très rare qu'aujourd'hui les adultes ont les sourires d'enfants. C'est pour ça que ça m'a tellement émue. J'ai ressenti comme une boule dans le ventre, au niveau entre le ventre et le cœur. Je ne sais pas si c'était un grand plan ou un grand vide, si on est rempli ou si on est léger comme l'air. C'est difficile à comprendre. Peut-être quand on est amoureux, on éprouve quelque chose de semblable. J'étais comme entourée de lumière. Lumière, la chaleur et même dans la tension du corps. Quand je pense à ce moment, à chaque fois, c'est comme une élévation, quelque chose de particulier. Le fait d'en parler, ça me revient. Ça me revient et je revois exactement le visage, les traits, le grand sourire, les yeux qui brillent. Allez, moi je voulais sourire moi aussi, moi je voulais répondre à cette beauté parce que c'était impossible de ne pas répondre. Impossible de ne pas répondre quand quelqu'un te regarde avec un regard si sincère, si brillant, ça t'allume aussi, son émotion t'allume. D'habitude c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est un très bon enseignant, grand, habillé toujours en vêtements sombres. Et ça, c'est sorti tout d'un coup, là, il n'a pas pu se retenir. Comme peut-être beaucoup d'enseignants se retiennent d'habitude parce qu'ils présentent une image un peu devant leurs étudiants. Là, c'est pour ça aussi peut-être que le sourire était étonnant parce que ça ne collait pas trop à son image. Peut-être qu'il a voulu aussi sortir de ce quotidien gris. Je joue plus de cours avec ce professeur depuis 2 ans. Mais parfois, il nous arrive de nous rencontrer dans la rue. Et ça me fait toujours plaisir de le voir sourire. Il me semble que je revis cet instant de beauté que j'ai vécu il y a 4 ans pour la première fois.
Comment on dit beauté en russe ?
Красота.
C'était à Chicago. Alors pour une raison ou une autre, j'étais seul. Mon épouse, à l'époque, n'avait pas voulu m'accompagner, donc j'ai pris mon temps. Je flânais beaucoup. Et j'ai allé voir un peintre. Je me déplaçais à l'Art Institute de Chicago, le Louvre de Chicago, pour voir quelque chose de bien précis. C'est le tableau de Carrie Bott, qui est un tableau gigantesque, à la place d'un coin de Paris, un coin de trottoir de Paris, où il y a un couple qui marche sous la pluie. Habillé en 1900, le monsieur a un chapeau claque, la femme elle est mignonne comme tout, et c'est un tableau qui est exceptionnellement beau et surtout pour un Parisien très très émouvant quand on se trouve à l'étranger. Et ce tableau de Carrie Bott, c'est le tableau de l'Art Institute de Chicago, et il y avait énormément de monde contrarié parce que je le vois pas bien. Alors ça m'embête un peu. Alors bon, comme ça m'embête un peu, mais la partie derrière, il y a un peu moins de monde, je passe derrière et là je tombe sur les deux sœurs de Renoir. Et je regarde ce tableau, le rouge de Renoir, les fleurs de Renoir, ces deux petites filles habillées avec des petites robes d'été, les yeux noirs, les deux petites filles qui me regardent. Oh ! Flûte, je ne peux plus le voir, j'ai les yeux qui sont embués de larmes. J'ai honte, monsieur de mon âge quand même. Alors je me recule un peu, je me regarde, et qu'est-ce que je vois à mes côtés ? Il y a une dame de mon âge que je connaissais, Nida Vidanan, pareil, dans le même état. Elle était avec son mouchoir, toute seule elle aussi. Alors on dit, ma foi, je ne suis pas fou. Et elle me dit quelque chose, elle regarde le tableau, elle me dit, Renoir, c'est tout. C'est un tableau, quand vous le voyez, vous êtes complètement hypnotisé. Il n'y a rien de plus bébête, hein. Il y a deux petites filles habillées en une petite robe blanche, il y a des petites fleurs derrière elles, il y a un qui porte un bouquet, je crois. Et puis voilà, c'est tout. Elles sont habillées vêtues 1900, je crois que c'est les deux filles de Renoir, je crois. Voilà. C'est tout petit, en plus, c'est pas très grand. Alors vous pouvez le voir sur Internet, hein, mais il faut le voir en vrai. Parce qu'en vrai, vous avez une émotion qui se dégage de ce tableau, qui est absolument exceptionnelle. Qui vous prend à la gorge, qui vous prend au cœur, c'est le regard de ces deux petites filles. Parce que Renoir a une façon de peindre les yeux de ces personnages qui est ahurissante. Le noir des yeux est magnifique. Il vous regarde. Le personnage vous regarde, mais fait plus que vous regardez. Il vous possède. Il rentre dans vous, et vous êtes là, exceptionnel. Le tableau, il était à moi. J'ai eu ce choc-là, à ce moment-là. Vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas vous dire, je suis incapable. Quand vous arrivez avec des mots sur un tableau, vous arrivez à dire « Tiens, cette photo, elle est belle parce qu'on voit ça, on voit ça », c'est que c'est un peu raté. Quand vous ne pouvez pas mettre de mots, là, ça s'appelle le génie. Voilà. Donc, et là, je n'ai pas de mots à vous dire. À ce moment-là, vous avez envie de pleurer. Vous voyez, quand je vous parle, raconte cette histoire, j'ai encore un petit soupçon de cette émotion. J'ai du mal à finir mon histoire. J'arrive pas à dire le mot Renoir sans avoir envie de pleurer. Très impressionnant comme sensation. J'étais sur un nuage après. Hein. J'étais bien. Je me sentais vraiment beaucoup plus utile sur cette planète. J'étais bien sur cette planète. Vous savez pourquoi j'étais là après. Vous sentez moins mortel, comme dirait Proust. Éternel presque. C'est ça, la vie.
Pour ma part, c'était en 2006, lors d'un séjour en vacances dans le sud de la Sicile, vraiment le sud, pas très loin de Palerme. Donc nous étions en famille avec mon mari, nos deux filles qui avaient à ce moment-là 12 et 8 ans. Donc c'était un matin, nous avions décidé de nous promener et de flâner un peu dans cette ville portuaire. Le bus nous a déposés, c'était sur une grande place où il allait y avoir un marché. Il était aux environs de 10h du matin. Et donc on a marché en fait un petit peu sans trop savoir où on allait, mais on voyait la mer et au loin des bateaux, donc c'était notre but en fait à atteindre. Et c'est à ce moment-là, après 10 minutes de marche, qu'on a pu en fait accéder à sur les hauteurs au-dessus de ce port. Il y avait une avancée au-dessus, c'était un rocher qui avançait un peu sur la mer avec des barrières qui étaient un peu en avancée sur le... On avait une impression de vide. Et c'est à ce moment-là où on s'est arrêtés tous en même temps. On s'est regardés avec des yeux écarquillés. Et en fait, on a regardé la vue inouïe à laquelle on ne s'attendait vraiment pas de cette mer. Le bleu se confondait en fait avec le bleu du ciel et on ne distinguait plus en fait ni l'un ni l'autre. Le même bleu faisait que on ne savait plus si on était sur la mer, dans le ciel. Alors c'était un bleu relativement pâle, c'était pas un bleu azur, c'était un bleu qui se levait. Absolument, et un bleu... pas très prononcé, pas très fort, très doux. Un bleu, en fait, on sent le soleil à l'intérieur. C'est un bleu qu'on n'a jamais revu, nulle part ailleurs. C'était pur, en fait. C'était quelque chose de très fluide. On n'est dans rien. C'est juste que Il faut pouvoir s'imaginer comme si là, tout ça, c'était bleu. Là, tout est bleu, c'est le même bleu. Et la seule chose qui vous rappelle par moment qu'il y a une mer, en fait, c'est quelques mouvements. Mais c'est tout. Voilà l'infini bleu. Et nous sommes restés comme ça durant 20 minutes à observer. 20 minutes d'extase en fait. Complètement bouche bée devant cette image à laquelle on ne s'attendait pas. Et en fait, on est un peu secoué à l'intérieur. On se dit waouh, enfin c'est. Vous vivez un moment qui est hors du commun. En plus, ce qui rend ce moment aussi magique, c'est que vous sentez le vent, la petite brise qui est là pour soulever vos cheveux, ou vous rappeler que vous êtes vivant en fait. Mais on a été tellement captivés par ce qu'on voyait qu'on n'a pas parlé durant 20 minutes. Il y a un moment de silence. Ce qui est frappant, surtout chez des enfants, c'est quand ils s'arrêtent et ils se taisent. Voilà. Ensuite, quand on est redescendu, on était presque un peu sonné, donc on s'est assis et on a pris une boisson, un café, enfin voilà, mais on était encore silencieux. Ensuite, on a déambulé dans la ville. En fait, on est redescendu sur terre presque. J'y pense souvent. Et des années même après, en fait, il reste un essentiel, quelque chose qui vous donne en fait comme une force, parce que vous savez que ça existe. Voilà.
Alors tout a commencé le jour où mon compagnon et un de ses amis ont décidé de faire un projet d'architecture et nous avons décidé d'aller explorer une partie du Maroc que nous ne connaissions pas, qui était le sud désertique du Maroc. On a l'idée du désert comme une étendue de sable à l'infini avec des dunes et le soleil qui vous brûle la peau. Et vous avez l'impression que c'est quelque chose d'uniforme et quelque chose qui est immuable, qui ne vit pas. Et on s'était dit que c'était ça qu'on trouverait dans le sud du Maroc. Et donc, on est parti en voiture d'une grande ville qui s'appelle Casablanca. Et on a roulé toute la nuit. On a commencé par rentrer dans des villes qui étaient une sorte de porte vers le désert, puisque vous aviez déjà des populations assez mélangées avec des populations paysannes et des bédouins. Et progressivement, on est arrivé vers une zone assez isolée et on a rencontré des gens qui nous ont hébergés et qui nous ont dit « on peut vous emmener dans un endroit qui est très beau ». Vous verrez le désert tel qu'il est au Maroc et pas tel qu'il est sur les images de cartes postales. Ça a aiguisé bien sûr notre curiosité. On s'est dit super, on va voir quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais on ne savait pas en fait ce qu'on allait découvrir puisque tout autour de nous il faisait nuit, c'était noir, on n'avait pas de repères puisque aucune lumière, aucun signe de vie apparent. Comme perdu au milieu de l'espace et du temps. Peu avant le lever du soleil, il y a des locaux qui viennent vous retrouver et qui vous proposent de vous rendre sur un lieu qu'ils connaissent. Donc vous marchez quelques dizaines de minutes et vous avez subitement la prise de connaissance d'un lieu gigantesque, splendide, à l'opposé total de ce qu'on pourrait croire du désert, c'est-à-dire un lieu plutôt montagneux, avec une fosse sinueuse à perte de vue, avec des promontoires, des excavations, des... Je pense même que c'était un ancien fleuve qui coulait là, qui avait coulé dans le fossé et qui avait dessiné en fait les rebords de cette fosse gigantesque. Vous êtes en haut d'un plateau, vous voyez les reflets, les ombres qui se mirent dans les roches, avec un changement de couleur en fonction du moment, puisqu'en fait on est resté sur place une petite heure. Et donc d'abord vous aviez plutôt des couleurs grises ou beige, et progressivement ça prenait en couleurs rougeâtres, mordorées, saumon. Vous êtes pris par une sensation de beauté et d'évidence, et quelque chose de profond, de à la fois doux et choquant. Vous êtes vraiment surpris par ce qui arrive, parce que c'est plus grand que tout ce que vous avez jamais vu, c'est un tout. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui manque à cet endroit, et pourtant vos sens ne vous disent pas cette information. C'est pas un vide, c'est... Vous avez l'impression qu'il y a tout dans cet endroit, parce que vous avez l'impression que vous y trouvez le plein. Je pense que c'est une habitude humaine de vouloir toujours dominer ce qui l'entoure. Et là, c'est pas possible. C'est vous qui êtes pris par ce qui vous entoure. Votre vue est dépassée, votre oui n'arrive pas à cerner ce qui l'entoure. Il n'y a aucun bruit, aucun son qui vous arrive. Aucun. Le silence absolu, mais dans la nature. Ce qui signifie que vous avez beau essayer, vous serez vaincu d'un certain côté par ce qui vous arrive. Et je crois que quand la beauté vous a le dessus sur vous, vous ne pouvez rien faire. Il faut juste vous laisser aller et prendre plaisir à cet instant. J'avais jamais ressenti mon cœur aussi vibrant, aussi puissant, aussi présent. J'ai pensé que jamais je n'avais ressenti une telle force du cœur sur le reste de mes fonctions vitales. Et donc, quand le soleil est arrivé suffisamment haut, on avait la totalité de ce paysage. On n'avait plus de limites, en fait, à ce paysage, encore moins qu'au lever du soleil. Et je n'étais plus... maître de moi, plus consciente. En fait, ça vous enlève votre pensée. Vous ne sentez plus que la chose qui est devant vous et qui se mélange avec vos sentiments, en fait, et vos sensations. Vous oubliez presque de respirer, en fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Enfin, ça devient moins important. Pour dire au revoir à cet espace, j'ai regardé précisément chaque chose que j'avais vue, et j'ai une nouvelle fois ressenti cette force qu'il renfermait et qu'il me donnait. Et c'est comme si je lui parlais, et j'avais eu un dialogue, mais un dialogue émotionnel avec cet endroit. Et donc je lui disais au revoir avec le cœur, avec l'esprit, avec les sens. Je pense qu'en disant au revoir, j'ai souri, j'étais heureuse. Donc avec le sourire, j'ai dit au revoir au lieu et je l'ai quitté avec gratitude. Et on est retourné dans notre quotidien. Cet espace m'avait donné de la force, il m'avait donné de la présence, une certitude, une conscience que cela était important. C'est vrai que de savoir que cet endroit existe, ça me crée un repère dans ma vie actuelle. Il y a eu un avant et un après cet événement, donc je dirais que c'est une sorte de guide. C'est une expérience fondatrice qui change une vie. Et donc, quelques mois après cet événement, j'ai quitté mon travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens avec qui j'ai partagé cette expérience et qui m'ont permis en fait de changer de voie, de changer de métier et d'être, de travailler sur le développement du Maroc, de ses peuples, et de travailler aussi également sur les questions environnementales et d'avoir une proximité plus forte avec ce qui me plaisait, c'est-à-dire la nature, les hommes, et continuer à les aimer très fort.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec trois éblouissements, un récit d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à ceux qui nous ont aidés à retrouver le Nagra qui a enregistré ces histoires, à Corentin, au gendarme Friedrich, à Loïc Poussel de la Sécurité de Radio France et à Harry de la Microtech. Merci bien sûr aux personnes qui nous ont confié leurs éblouissements, dont Élise a malheureusement perdu les coordonnées dans le Nagra. Merci à Olivier, à Douria, à Lydie, à Florian, et à Cécile. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire.